question. Alors je n'ai pas à être la femme qui souffre depuis longtemps, ni le mari humilié, ni la victime, dans mes relations afin de les rendre sacrées ou de me rendre agréable aux yeux de Dieu ? Réponse : bon sang, bien sûr que non. Question : je n'ai pas à supporter des attaques à ma dignité, des assauts à mon orgueil, du tort à mon psychisme et des blessures à mon cœur afin de dire que j'ai donné le meilleur de moi-même dans une relation personnelle, que j'ai fait mon devoir ou que j'ai rencontré mes obligations aux yeux de Dieu et de l'homme ? Réponse : pas une seconde. Question : alors, Dieu, dis-moi, à quelle promesse devrais-je m'engager dans une relation personnelle ? Quels accords dois-je conserver ? Quelles obligations les relations personnelles engendrent-elles ? Quelles consignes dois-je chercher ? Réponse : la réponse est celle que tu ne peux entendre, car elle te laisse dépourvue de consignes, et rend nul et non avenu tout accord dès l'instant où tu le conclus. La réponse est : tu n'as aucune obligation, ni dans une relation, ni de toute ta vie. Question : aucune obligation ? Réponse : aucune obligation. Aucune restriction ou limite, aucune consigne ou règle. Tu n'es lié par aucune condition ou situation, ni contraint par aucun code ou aucune loi. Et tu n'es punissable d'aucune offense, ni capable d'aucune, car il n'y a rien d'offensant aux yeux de Dieu. Question : j'ai déjà entendu cela, ce genre de religion où il n'y a pas de règles, c'est de l'anarchie spirituelle. Je ne vois pas comment cela pourrait marcher. Réponse : il est impossible que ça ne marche pas. Si tu tiens à entreprendre la création de ton soi, si d'autre part tu t'imagines vouloir être ce que quelqu'un d'autre veut que tu sois, l'absence de règles ou de consignes peut en effet rendre les choses difficiles. Mais le mental tient à demander : si Dieu veut que je sois de telle façon, pourquoi ne m'a-t-il pas tout simplement créé ainsi au départ ? Pourquoi toute cette lutte pour que je surmonte qui je suis afin de devenir ce que Dieu veut que je sois ? C'est ce que le mental interrogateur veut savoir, avec raison d'ailleurs, car c'est une interrogation valable. Les spécialistes de la religion voudraient te faire croire que je t'ai créé inférieur à qui je suis, pour que tu puisses avoir la chance de devenir semblable à « oui, je suis ». À l'encontre de toute probabilité, et pourrais-je ajouter, à l'encontre de toute tendance naturelle que je suis censé t'avoir donnée. Parmi ces soi-disant tendances naturelles, il y a la tendance au péché. On t'a enseigné que tu étais né dans le péché, que tu mourras dans le péché, et qu'il est dans ta nature de péché. L'une de vos religions vous enseigne même que vous n'y pouvez rien. Vos propres actions sont inconséquentes et insignifiantes. Il est arrogant de penser que, par une action quelconque de votre part, vous puissiez aller au ciel. Il n'y a qu'une façon d'aller au ciel, d'être sauvé. Ce n'est pas par une entreprise quelconque, mais par la grâce que vous accorde Dieu lorsque vous acceptez son Fils comme intermédiaire. Lorsque c'est fait, vous êtes sauvé. Avant cela, rien de ce que vous faites, ni la vie que vous menez, ni les choix que vous faites, ni rien de ce que vous entreprenez par votre propre volonté dans un effort de vous améliorer ou de vous rendre digne, n'a d'effet ou d'influence. Vous êtes incapable de vous rendre digne, car vous êtes intrinsèquement indigne. Vous avez été créé ainsi. Pourquoi ? Dieu seul le sait. Peut-être a-t-il fait une erreur, peut-être a-t-il manqué son coup, peut-être souhaite-t-il pouvoir tout recommencer. Mais voilà, que faire ? Question : tu te moques de moi ? Réponse : non, tu te moques de moi. Tu dis que moi, Dieu, j'ai fait des êtres intrinsèquement imparfaits, puis que j'ai exigé qu'ils soient parfaits ou damnés. Tu dis qu'ensuite, plusieurs milliers d'années après avoir lancé l'expérience du monde, je suis revenu sur ma décision, disant que dès lors, tu n'avais pas nécessairement à être bon. Tu n'avais qu'à te sentir mal lorsque tu n'étais pas bon et à accepter en tant que sauveur le seul être qui pouvait toujours être parfait, satisfaisant ainsi mon désir de perfection. Tu dis que mon fils, le seul être parfait, t'a sauvé de ta propre imperfection, l'imperfection que je t'ai donnée. Autrement dit, le Fils de Dieu t'a sauvé de ce que son Père a fait. C'est ainsi que vous, un grand nombre d'entre vous, prétendez que j'ai tendu un piège. Alors qui se moque de qui ? Question. C'est la seconde fois dans ce livre que tu sembles lancer une attaque directe contre le fondamentalisme chrétien. Cela m'étonne. Réponse. C'est toi qui parles d'attaque ? Je ne fais qu'aborder la question. Et la question, en passant, n'est pas le fondamentalisme chrétien, comme tu le dis. C'est toute la nature de Dieu et de la relation de Dieu avec l'homme. La question survient ici parce que nous parlions des obligations dans les relations personnelles et dans la vie même. Tu ne peux croire en une relation dépourvue d'obligations parce que tu ne peux accepter qui et ce que tu es vraiment. Tu appelles une vie de liberté complète l'anarchie spirituelle. J'appelle cela la grande promesse de Dieu. Ce n'est que dans le contexte de cette promesse que peut s'accomplir le grand plan de Dieu. Dans une relation, tu n'as aucune obligation, tu n'as que des occasions. L'occasion, et non l'obligation, est la pierre d'assise de la religion, le fondement de toute spiritualité. Aussi longtemps que tu croiras l'inverse, tu auras raté l'essentiel. La relation, ta relation à tous les êtres, a été créée pour être l'outil parfait de l'œuvre de l'âme. C'est pourquoi toutes les relations humaines constituent un espace sacré. C'est pourquoi toute relation personnelle est sacrée. Là-dessus, bien des églises ont raison. Le mariage est un sacrement, non à cause de ses obligations sacrées, mais pour l'occasion sans pareille qu'il offre. Ne fais jamais rien dans une relation par sentiment d'obligation. Fais tout ce que tu veux avec le sentiment de l'occasion glorieuse que ta relation t'accorde, celle de choisir et d'être qui tu es vraiment. Question. Je comprends, mais à bien des reprises dans mes relations personnelles, j'ai abandonné quand ça commençait à aller mal. Par conséquent, j'ai eu toute une série de relations alors que je croyais, enfant, que je n'en aurais qu'une. Je n'ai pas l'impression de savoir ce que c'est que de m'attacher à une relation. Crois-tu que j'apprendrai un jour ? Qu'est-ce que je dois faire pour que ça se produise ? Réponse. Tu sembles vouloir dire que l'attachement à une relation en fait une réussite. N'essaie pas de confondre longévité et travail bien fait. Rappelle-toi, ta tâche sur cette planète n'est pas de voir combien de temps tu peux rester en relation, mais de choisir de faire l'expérience de qui tu es vraiment. Ce n'est pas une raison suffisante pour valoriser les relations à court terme, mais il n'y a pas non plus d'exigence de relations à long terme. Toutefois, même si une telle exigence n'existe pas, il faut ajouter ceci. Les relations personnelles à long terme présentent de remarquables occasions de croissance mutuelle, d'expression mutuelle et de satisfaction mutuelle, et, en soi, c'est une récompense. Question. Je sais. En fait, c'est ce que j'ai toujours soupçonné. Alors comment puis-je y arriver ? Réponse. D'abord, assure-toi que tu entres en relation pour les bonnes raisons. J'utilise ici le mot « bonne » en tant que terme relatif. Je veux dire bonne en rapport au but supérieur que tu t'es fixé dans la vie. Comme je l'ai déjà indiqué, la plupart des gens entrent encore en relation personnelle pour les mauvaises raisons. Pour mettre fin à la solitude, remplir un vide, se donner de l'amour ou quelqu'un à aimer. Et ce sont certaines des meilleures raisons. D'autres le font pour apaiser leur ego, mettre fin à leur dépression, améliorer leur vie sexuelle, guérir d'une relation antérieure ou, crois-le ou non, soulager l'ennui. Aucune de ces raisons ne fonctionne et, à moins d'un changement radical en cours de route, la relation ne changera pas. Question. Je ne suis en relation pour aucune de ces raisons. Réponse. Je ne crois pas. Je ne crois pas que tu saches pourquoi tu es entré dans tes relations personnelles. Je ne crois pas que tu y aies songé de cette façon. Je ne crois pas que tu sois entré dans tes relations de façon réfléchie. Je crois que tu t'es lancé dans tes relations parce que tu es tombé amoureux. Question. C'est exactement cela. Réponse. Et je ne crois pas que tu te sois arrêté pour considérer pourquoi tu étais tombé amoureux. À quoi réagissais-tu ? Cela comblait quel besoin ou quel ensemble de besoins ? Pour la plupart des gens, l'amour est une réponse à l'accomplissement de besoins. Tout le monde a des besoins. Tu as besoin de ceci, l'autre a besoin de cela. Chacun de vous voit dans l'autre une chance de combler ses propres besoins. Alors, vous vous entendez, de façon tacite, pour faire un échange. Je t'échangerai ce que j'ai si tu me donnes ce que tu as. C'est une transaction. Mais vous ne dites pas la vérité. Vous ne dites pas « je t'échange beaucoup ». Vous dites « je t'aime beaucoup ». Et c'est alors le commencement de la déception. Question. Tu as déjà parlé de cela ? Réponse. Oui, et tu as déjà fait cela, pas seulement une fois, mais plusieurs. Question. Ce livre semble parfois tourner en rond, en soulevant les mêmes points à maintes reprises. Réponse. Un peu comme la vie, quoi. Question. Touché. Réponse. Le processus, c'est que tu poses les questions et que je ne fais qu'y répondre. Si tu poses la question de trois façons différentes, je suis alors obligé de continuer d'y répondre.